France Inter.
À la une de ce 13h, le sort des otages avant toute chose en Égypte aujourd'hui. La première phase du plan Trump commencera à être débattue. Les autres points du plan feront l'objet de négociations ultérieures. Nous serons en direct à Jérusalem avec notre correspondant Thibault Lefebvre. Un accouchement politique dans la douleur. L'annonce du futur gouvernement se fait attendre. Tous les partis font monter les enchères. Le Modem, puis Horizon, puis les LR se réuniront en début d'après-midi. Un gouvernement que censureront les Insoumis mardi prochain, juste après la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. L'invité de ce journal, la marraine de la fête de la science, Estelle Collard, ingénieure, professeure de mathématiques, 400 000 abonnés à son compte TikTok, où elle se fait appeler Wonder Womat. Dans ce journal, nous verrons pourquoi le Bitcoin a dépassé un nouveau seuil ce matin, au-dessus des 125 000 dollars. Et puis nous rejoindrons Fanny Lechevestrier au championnat d'Europe de cyclisme sur route. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, ça va se passer entre éclaircies et nuages.
Oui, une amélioration qui sera plus franche sur l'ouest du pays.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. C'est donc en Égypte, pays médiateur, que se dessine l'avenir du Proche-Orient. Négociations indirectes à partir d'aujourd'hui entre le Hamas et Israël pour discuter du plan de paix américain. Un plan en 20 points dont certains sont contestés par le Hamas. Et ça fera l'objet donc de négociations dans les prochains jours, car l'urgence pour l'instant, ça concerne le retour des otages. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Eric.
Correspondant à Jérusalem, vous suivez ces négociations. Il faut donc d'abord se concentrer sur les enjeux à court terme.
Oui, sur cette première phase des négociations, avec donc cet enjeu évident, oui, il faut tout simplement rendre possible l'échange d'otages et de prisonniers. Je vous le rappelle, 48 otages israéliens d'un côté, 20 présumés vivants, 250 prisonniers palestiniens de l'autre, ceux qui purgent des peines de prison à vie, ainsi que 1700 Gazaouis arrêtés après le massacre du 7 octobre 2023. Alors le plan Trump donne 72 heures aux belligérants pour procéder à cet échange, mais seulement à partir du début d'un cessez-le-feu qui n'a pas encore été décrété. Pas d'échéance précise donc pour le moment. Un mot Eric sur le calendrier. Aujourd'hui, c'est la préparation du sommet. Tous les participants ne sont pas arrivés, notamment le négociateur en chef du Hamas, Khalil Alaya. Du côté de l'État hébreu, c'est l'éminence grise de Benjamin Netanyahou, Ron Dermer, qui mènera les discussions. À noter la présence du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, de son ami et négociateur Steve Witkoff. Casting XXL donc, réunis dans des pièces différentes pour des négociations indirectes mais cruciales qui pourraient se décanter dans la journée de demain.
Et après la question des otages, il faudra ensuite discuter des autres phases du plan Trump. Et c'est à ce moment-là que risquent d'apparaître quelques blocages.
Oui, ce sont des questions essentielles qui devraient être mises sous le tapis pour le moment. Alors il y a d'abord le jour d'après. Pour aller vite, le plan Trump prévoit une administration technocratique arabe pilotée par un comité dirigé par le président américain. Le Hamas veut lui participer à une gouvernance palestinienne. Et puis l'autre interrogation, ce sont les armes. Donald Trump envisage de complètement nettoyer la bande de Gaza. Le Hamas, lui, veut négocier avec d'autres factions palestiniennes un désarmement partiel.
Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem, j'ajoute que ce matin, un haut responsable du Hamas dit son désir de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre et procéder immédiatement, dit-il, à un échange de prisonniers avec Israël. Combien de Palestiniens ont dû quitter la ville de Gaza, devenue la cible permanente de l'armée israélienne? Eh bien, environ 900 000 habitants sont partis, répond ce matin le ministre israélien de la Défense. À quoi ressemble aujourd'hui cette ville dévastée? Écoutez ce qu'en disait ce matin sur Inter le journaliste Luc Bronner, correspondant du Monde, du journal Le Monde à Jérusalem. Vendredi, il a pu se rendre dans l'enclave palestinienne sous escorte de l'armée israélienne.
Le mot que je retiens, c'est celui d'anéantissement. J'ai vraiment eu le sentiment, en traversant la bande de Gaza, sur quelques kilomètres, d'assister, de constater l'anéantissement d'un territoire. Ce qui m'a frappé, c'est ce que je voyais, l'ampleur des destructions, et c'est ce que je ne voyais pas, c'est-à-dire la population. J'ai traversé avec le convoi militaire des kilomètres et des kilomètres de zones qui, notamment dans la ville de Gaza, sont des zones particulièrement denses en termes de population. Il y a plus d'1 million d'habitants normalement à Gaza, dans la ville, et là il y avait plus personne. Il y avait des chiens errants, il y avait des militaires, il y avait des bulldozers qui continuaient le travail de démolition, mais la population avait totalement disparu. Et c'est un sentiment là aussi qui est assez terrible et vertigineux, c'est de voir que les déplacements forcés de population organisés par l'armée israélienne sous ordre du pouvoir politique israélien ont quasiment totalement vidé des quartiers entiers de cette ville.
Le journaliste Luc Brunner, invité ce matin de la matinale d'Inter.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
En politique, c'est la réunion qui doit décider de tout, mais elle tarde à venir. Les cadres du parti Les Républicains se rassembleront à partir de 14h30 finalement pour décider de leur participation ou non au futur gouvernement. Réunion DLR plusieurs fois reportée, d'abord prévue hier, puis ce dimanche midi, puis finalement 14h30 aujourd'hui, le temps que les élus républicains étudient ce qui ressemble à une lettre de cadrage de Sébastien Lecornu, un document envoyé la nuit dernière et qui précise les engagements, notamment budgétaires, du gouvernement Lecornu. Bonjour Manuel Ruffel.
Bonjour.
Service politique de France Inter. Eh bien, cette feuille de route, elle a donc été transmise ces dernières heures par Sébastien Lecornu au socle commun, c'est-à-dire les LR, Renaissance, Horizon, UDI et Modem.
Avec cette précision importante de Matignon, attention, il s'agit effectivement bien d'une feuille de route, pas d'une déclaration de politique générale, ni d'un agenda exhaustif. C'est un document de synthèse à destination de ce socle commun. Et le but, eh bien, c'est toujours le même. C'est ce que s'évertue à faire Sébastien Lecornu depuis qu'il est à Matignon. C'est consolider cette coalition de gouvernement. C'est une feuille de route qui nous ressemble, est-il écrit, en prenant acte de nos différences et en restant fidèle à nos valeurs. Alors, que trouve-t-on dans cette feuille de route? Eh bien, un condensé de toutes les annonces distillées ces derniers jours par Matignon. La promesse de réduction des dépenses publiques, mais aussi celle de justice fiscale. Mais il ne s'agira en aucun cas d'un budget d'austérité ou de régression sociale. Sébastien Lecornu se dit d'ailleurs très attaché au modèle social français, notamment retraite et santé. Pour tenter de répondre aux demandes des Républicains, Matignon redit que la sécurité du quotidien et la lutte contre l'immigration irrégulière sont des priorités majeures. Ce sont donc de grands axes de travail, là où beaucoup dans ce socle commun demande maintenant des détails et du concret.
Manuel Ruffel, service politique de France Inter. Quant au Modem, coincé entre la droite et la gauche, le parti centriste ne voudrait pas être négligé. Pas question d'être la variable d'ajustement du prochain gouvernement. Marc Fesneau, le président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale, a même envoyé une lettre à Sébastien Lecornu pour lui demander une clarification.
Ce n'est pas un chantage que je fais. Ce n'est pas un chantage à la participation au gouvernement. Il est naturel que cette formation politique participe au gouvernement. Mais il est naturel aussi que nous disions quelle est la feuille de route collective que nous nous donnons. Le Premier ministre a donné un certain nombre d'éléments de balise sur les questions fiscales, en disant qu'il souhaitait plutôt la stabilité fiscale et à l'intérieur de faire des bougies, qu'il souhaitait avoir des mesures sur le pouvoir d'achat, qu'il souhaitait regarder ce qu'on pouvait faire en termes de réduction de dépenses. On est plutôt dans le registre d'un certain nombre de généralités qu'on peut partager, mais après il va falloir rentrer dans le détail.
Il y aura des ministres Modem, soyons très clairs, dans quelques
heures.
En tout
cas, c'est la configuration dans laquelle nous sommes et je trouve ça normal, légitime, mais on s'engage avec une feuille de route qui soit un peu plus balisée. Qu'est-ce qu'on va défendre les uns et les autres dans ce qu'on pourrait qualifier de chaudron à l'Assemblée nationale? Il vaut mieux, pour qu'on puisse parler aux autres, que nous soyons clairs sur ce que nous défendons collectivement pour ceux qui participeront au gouvernement.
Le centriste Marc Fesneau, il y a quelques minutes sur Inter avec Alexandra Ben Saïd. Ce gouvernement n'est pas encore nommé, qu'il est déjà menacé. Les Insoumis annoncent qu'ils déposeront une motion de censure mardi. Ce sera dès la fin de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Et ce matin, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, Olivier Faure estime qu'on se dirige tout droit vers la censure. Voilà pour la parole du Parti Socialiste. La science, en fait, un peu partout en France, depuis deux jours, la fête de la science jusqu'au 13 octobre, pour créer des échanges entre les chercheurs et les citoyens, et pourquoi pas susciter des vocations, cette science malmenée aux États-Unis, comme parfois sur les réseaux sociaux, où il y a à prendre et à laisser. Eh bien nous, ce matin et ce midi, on va laisser le pire pour prendre le meilleur avec la marraine de cette fête de la science. Bonjour Estelle Collard.
Bonjour.
Les internautes vous connaissent mieux sous le nom de Wonder Womat, maths comme mathématiques. 400 000 abonnés vous suivent sur TikTok. Vous êtes ingénieure et enseignante. Une femme pour marrainer la fête de la science. Comment expliquer d'ailleurs que les femmes soient encore si peu nombreuses dans les sciences ?
Elles sont pas si peu nombreuses, c'est plutôt selon les domaines, parce que les femmes, par exemple, sont surreprésentées en médecine, là où on va très peu les retrouver en mathématiques et surtout en mathématiques pures. Donc tout est lié évidemment à des stéréotypes. Les femmes, on les éduque à prendre soin des autres, à être dans le care, à trouver un sens à leurs actions. Donc c'est pour ça qu'on va les retrouver dans la bio, dans la médecine, alors que les sciences, comme la physique théorique ou les maths pures, où on a l'impression que c'est une discipline complètement désintéressée, bah là, on va moins les retrouver. Donc, c'est juste des stéréotypes.
Et pour prendre votre cas personnel, qu'est-ce qui vous a fait, vous, choisir les mathématiques ?
Ça a été un processus très, très lent, parce que même si j'ai toujours été très bonne en maths à l'école, moi, j'ai eu un profil artistique très longtemps. Et on va dire qu'au lycée, quand il a fallu parler orientation, bah, le choix de la raison s'est fait. Parce que moi, je viens d'une famille au capital financier modeste. Et vivre de l'art, c'est quand même très, très compliqué. Et les sciences, c'est un domaine qui est très porteur, avec beaucoup de débouchés. Donc, naturellement, je me suis dirigée vers les sciences et de fil en aiguille vers les mathématiques. Mais c'est vraiment un processus très long.
Et savez-vous si avec votre blog Wonder Womath, vous avez suscité des vocations dans la science pour les jeunes qui vous suivent, chez les jeunes qui vous suivent ?
Bah, je sais pas forcément si j'ai suscité une vocation parce que j'ai pas mené une étude sociologique là-dessus. Mais par exemple, quand j'étais enseignante, j'ai pas constaté de différence entre filles et garçons. Donc, je pense que d'avoir une prof de mathématiques femme, il y a eu cette espèce de rôle modèle qui a normalisé la chose pour les jeunes filles et qui, au final, était aussi brillante que les garçons.
Vous avez publié un livre l'an dernier qui s'appelle La face cachée des formules et théorèmes. C'est paru chez Ellipse. Quelle était la vocation de ce livre d'ailleurs, adressé à qui, aux plus jeunes ?
Alors c'est purement scolaire, donc c'est pour préparer le brevet en mathématiques, donc c'est clairement pour les élèves de 3e, et il y avait cette idée où il se vend énormément de bouquins de révision, et à chaque fois je trouvais qu'il y avait un aspect recette de cuisine, on balance les formules bêtement, on explique les méthodes bêtement, sans comprendre, voilà. En fait, on apprend aux élèves à être des robots en mathématiques qui reproduisent un algorithme. Donc moi, j'ai voulu redonner du sens à ces apprentissages, comme tout enseignant fait en classe quand on a le temps, vraiment expliquer pourquoi ça marche, comment ça marche, et c'est comme ça qu'on devient un bon petit mathématicien, justement.
Estelle Collard, vous êtes, je le rappelle, la marraine de la fête de la science, cette année sur le thème des intelligences. D'ailleurs, a-t-on besoin d'être intelligent pour s'intéresser aux mathématiques ?
Là, c'est vraiment une question piège que vous me posez. Tout dépend ce qu'on appelle intelligence. On sait qu'aujourd'hui, le critère pour mesurer l'intelligence, c'est le QI. Bah oui, il vaut mieux avoir un bon QI pour être bon en mathématiques. Mais après, ce que j'aime bien dans ce thème, c'est les intelligences. Il y a les intelligences collectives. Et ça, c'est hyper important en mathématiques. Il faut avoir un bon travail d'équipe. Je suis désolée, ma réponse, elle est bizarre.
Non,
mais
non, elle est intéressante. Les intelligences, notamment l'intelligence artificielle. Dans les mathématiques, est-ce que vous considérez cette intelligence artificielle plutôt comme une alliée ou bien déjà comme une rivale capable, par exemple, de supprimer des emplois ?
C'est vrai qu'il y a un espèce de paradoxe avec l'intelligence artificielle. À la base, elle a été créée pour remplacer les métiers pénibles et pour permettre à tout le monde de s'épanouir dans des métiers plus enrichissants. Et là, force est de constater que les métiers pénibles sont toujours là, et l'intelligence artificielle, elle remplace par exemple les monteurs vidéo, les graphistes, tous ces métiers passionnants dans l'art. Donc oui, il y a quelque chose à réguler. En mathématiques, je saurais pas vous dire, moi j'appartiens pas au milieu académique, mais en tant qu'enseignant, je suis à la fois effrayée pour toutes ces applications qui poussent comme des champignons pour faire le DM à la place de l'élève. Mais d'un autre côté, en tant qu'enseignante, c'est quand même un allié pour me faire gagner du temps, pour créer des exercices, pour créer des rituels. Donc il faut juste s'en emparer intelligemment.
Eh bien merci Estelle Collard. Je rappelle votre livre, La face cachée des formules et théorèmes, paru chez Ellipse l'an dernier. Vous êtes la marraine de la fête de la science. Ça va durer jusqu'au 13 octobre. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Entretien enregistré il y a quelques minutes. Elle est un peu la star des crypto-monnaies. Le Bitcoin vient de battre un record ce matin en dépassant le seuil des 125 000 dollars. Le Bitcoin deviendrait-il une valeur refuge des investisseurs au moment où la paralysie budgétaire se poursuit aux États-Unis ? Eh bien écoutez ce qu'en dit Quentin Demey. Il est économiste spécialiste des crypto-monnaies.
Il y a quelques années, on aurait eu probablement un impact tout à fait différent, puisque dès qu'il y avait des périodes d'incertitude, je pense au Covid notamment, on avait une décroissance et on avait vraiment un impact très négatif sur le prix du Bitcoin. Et là, c'est tout l'inverse. On est en période d'incertitude majeure aux États-Unis et le Bitcoin prend de la valeur. Alors, ça pose la question de se dire, est-ce que finalement, ça devient une réserve stratégique? Je pense qu'on peut pas encore le dire totalement. Par contre, on commence à avoir des indices concordants. Le fait que les États investissent et que les particuliers investissent dans cette période-là fait se dire que bah, finalement, est-ce que comme l'or, le Bitcoin ne deviendrait pas un refuge dès qu'on a des inquiétudes sur le marché au niveau micro et macroéconomique? On a aujourd'hui une offre que l'on connaît limitée et une demande qui est croissante. On peut s'attendre à de nouveaux records et c'est probablement ce qui nous attend dans les années à venir.
L'économiste Quentin Demey, joint par Alexis Morel. En Syrie aujourd'hui, ce sont les premières élections depuis la fin du régime d'Assad. Première législative post-dictature. Mais le scrutin n'est pas ouvert à tous les Syriens. C'est un suffrage indirect, très contrôlé par le président par intérim Ahmed Al-Shara. Les précisions d'Omar Waman.
Cette nouvelle assemblée qui sortira des urnes ce dimanche sera dotée d'un mandat de 30 mois seulement. Un parlement de transition qui donne des indications sur l'état de la Syrie bientôt un an après la fin de la dictature. Pour des raisons sécuritaires, les nouvelles autorités ont décidé de reporter ces élections dans une large partie du nord-est de la Syrie, notamment à Raqqa et à Asaké, contrôlées par les Kurdes, mais également dans le sud de la Syrie, tenues par les Druzes, deux territoires quasi autonomes en lutte pour un État décentralisé. Les deux tiers de la nouvelle assemblée seront désignés par des comités locaux et le reste nommé par le président intérimaire Ahmed Al-Shara, un mécanisme jugé antidémocratique par l'opposition qui dénonce une concentration excessive des pouvoirs et un manque de représentativité des composantes ethniques et religieuses du pays.
Les championnats d'Europe de cyclisme sur route aujourd'hui en Dromardèche. Après les femmes hier, les hommes sont en selle depuis près d'une heure et demie. Départ donné à Privas, c'est en Ardèche. Plus de 200 km de course et ça va grimper aujourd'hui avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Beaucoup de vent, hein, je crois déjà, et du beau monde dans le peloton, dont le champion du monde Tadej Pogacar.
Ah oui, des garçons dans le vent avec effectivement le champion du monde. Il a son maillot arc-en-ciel sur le dos, le Slovène bien accompagné puisque Remco Evenepoel est également en présent, champion du monde, champion d'Europe du contre-la-montre, champion olympique également. Et puis, il y a la présence de Jonas Vingegaard, le Danois, pas habitué hein, vraiment à se présenter sur une course d'un jour. Mais là, il l'a dit, le parcours peut lui convenir. Après, il y a l'incertitude sur son état de forme. Grosse question, il sort, il n'a plus couru depuis sa victoire sur la Vuelta, le Tour d'Espagne. Pour l'instant, les hostilités entre les trois grands favoris de la course n'ont pas débuté. Ils sont dans le peloton. Une échappée est partie. Il reste encore 142 km à parcourir. Trois hommes devant, dont deux néerlandais. Et puis un groupe en contre-attaque à seulement 15 secondes. Dans ce groupe, eh bien, il y a un Français, Nicolas Prodhomme. Les Français qui sont dans une position attentiste. Ils surveillent les coups. Et puis le peloton qui pointe à 2 minutes 08. Attention, les routes sont de plus en plus étroites. Vous avez parlé d'un parcours accidenté. Ça a déjà commencé à grimper et l'écrémage va se faire petit à petit.
Et l'arrivée est prévue à Guilherand-Grange aux alentours de 17h. C'était Fanny Lechevestrier. En tennis de table, le Français Félix Lebrun, numéro 7 mondial, vient de s'incliner en finale du Grand Smash de Pékin. C'est la première fois qu'un Français était en finale de ce tournoi comme un grand chelem. Il a été sèchement battu, le Français, en 4-7 par le numéro 1 mondial, le Chinois Wang Shuqing. C'est un événement à la fois sportif et musical. Le GP Explorer 3, Grand Prix sur le circuit du Mans. Les bolides sont pilotés par des influenceurs et autres streamers de tous bords. Ils ont d'ailleurs reçu une formation pour rouler à près de 200 km par heure. Ce GP Explorer 3 est aussi un rassemblement musical avec des concerts de rappeurs organisés par le vidéaste Squeezie. Ça a lieu tout le week-end au Mans. Les 200 000 places ont été vendues en moins de 2 heures. Reportage d'Alexandre Chassignon.
Il donne de sa personne en portant son adolescente de fille sur ses épaules pour qu'elle voie la piste.
Ça fait longtemps que je ne le fais plus, oui.
Cyril est venu de Rennes pour faire plaisir à Rose.
Elle m'a saoulé pour venir, donc ça va, j'aime bien la voiture, mais bon, je me sens vieux là.
Car il avoue ne pas connaître les pilotes comme le streamer Anime, dont Rose porte le maillot.
C'est un streamer qui a commencé il n'y a pas très longtemps et qui a percé. Il fait des lives drôles, machin.
Mathieu aussi accompagne ses trois enfants.
Il fallait bien un chauffeur.
Le père de famille belge s'avoue un peu perdu devant le plateau.
J'en connais un ou deux de noms, mais bon, voilà. Squeezie, forcément, vous êtes le plus connu de la bande. Et bon, c'est à peu près tout, moi, en fait.
Ce sont ses enfants qui l'assurent. Laurent, lui, n'est pas largué.
Pas que, il aime bien aussi. Hein.
Ah, j'aime bien, je suis un petit peu les... ouais. Je suis par rapport aux vidéos, ouais. Les préparations, on a regardé ensemble avec les enfants. Et puis je suis sur les réseaux, que ce soit Squeezie, Inox, voilà, Amine, voilà, je suis un peu tout ça.
Car ceux et celles qui jouent au pilote ce week-end sont les vedettes d'une génération, assure Mathieu.
On n'était pas fans des mêmes types de personnages, quoi. C'était plus ouais, des chanteurs, des acteurs. Mais c'est vrai qu'ici, c'est une nouvelle génération avec des nouvelles stars.
Et permettre à ses enfants de vivre cet événement, ça justifie beaucoup d'efforts.
Reportage d'Alexandre. Sandre Chassignon, ici mène le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le soleil va encore briller largement cet après-midi près de la Méditerranée.
Oui, et comme ce matin, ce sera au prix d'un vent soutenu, même s'il faiblit un peu, plus que 50 à 70 km à l'heure en rafale. Les éclaircies, elles seront plus nombreuses et plus franches sur l'ouest, de la Bretagne jusqu'en Aquitaine. Mais sur les Pyrénées et le reste du pays, on aura encore beaucoup de passages nuageux avec quelques éclaircies et un risque d'ondées qui sera encore présent. On aura même encore un petit peu de neige au-dessus de 1600 mètres sur les Alpes du Nord.
Oui, un peu plus de fraîcheur généralisée. Hein.
Oui, on repasse partout sous les normales de saison. 13 degrés à Besançon, 14 à Metz, 16 à Lyon, Lille ou Brest, 17 à Paris, 19 à Biarritz ou 20 à Bordeaux. Il n'y a que près de la Méditerranée, finalement, sous le soleil, qu'on va dépasser ces 20 degrés. 21 à Perpignan, 22 à Toulon et la maximale de 24 degrés pour Nice ou Ajaccio.
Les prévisions de Céline Dacosta.